Lepton, il est 16h, vous êtes en direct sur 93.6 et vous écoutez l'émission d'Entraide et Solidarité. Entraide et Solidarité, donc on va passer une heure ensemble. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est une association locale, Entraide ouvrière jusqu'à l'année dernière, et qui a pour objet de venir en aide aux personnes qui sont les plus démunies en Indre-et-Loire. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'association, n'hésitez pas à consulter le site internet http://entraide-et-solidarité.fr. Donc, notre objectif, c'est de lutter contre toutes les exclusions. Et donc, nous profitons de l'espace de parole qui nous est accordé par Radio Béton pour pouvoir tâcher de venir en aide aux personnes et de participer. Aujourd'hui, notre sujet, c'est vivre dans la rue. Vivre dans la rue, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est le sujet. Et notre objectif, ça serait, j'ai envie de dire, peut-être d'aider à prendre conscience, donner envie d'aider aux personnes qui nous écoutent et peut-être casser des images. Voilà, on va en discuter donc ensemble avec nous pour parler du sujet. Donc on a Laure de Chambre qui est assistante sociale à l'Entraide et qui travaille sur la Maraude.
Bonjour.
Laurence Cordet qui est bénévole et qui participe aux Maraudes depuis 3 ans maintenant.
Bonjour.
Voilà. On a Flora Léautre qui est la présidente de l'association Back to the Future.
Bonjour.
Et Amandine Adam qui est bénévole à la barque, administratrice.
C'est ça, bonjour.
Voilà. Et pour animer, donc, nous sommes Nathalie Dréano, qui est responsable du centre de formation et directrice adjointe de l'association Entraide.
Bonjour.
Et moi-même, donc, qui suis bénévole et adhérente. Et on a Thierry Guérard et François Ferris, qui sont tous les deux à la technique avec nous. Pour commencer, les personnes qui sont dans la rue, de qui est-ce que nous parlons ? Est-ce que Laure, vous pouvez déjà nous dire quelques indications sur le sujet ? Quelques chiffres ?
Sans problème. On va parler surtout donc, des personnes qui sont en rupture de logement. Donc ça concerne effectivement les personnes qui dorment dehors, les personnes qui dorment en squat, les personnes qui vont dormir dans une tente, des personnes qui vont dormir dans leur véhicule, que ce soit une voiture ou un camion. C'est aussi les personnes qui peuvent être hébergées en hébergement d'urgence, qui font appel de temps en temps au 115. Voilà, c'est toutes ces personnes-là dont on va parler aujourd'hui. Vous voulez que je vous présente quoi, un petit peu, si on parle plutôt d'hommes, de femmes, les tranches d'âge, des choses un peu comme ça.
Ça représente à peu près combien de personnes, surtout ?
Alors, c'est très compliqué, en fait, hein, d'avoir des chiffres. Si on parle plutôt au niveau national, il n'y a pas de statistiques qui sont actualisées. On va dire que les dernières stats de l'INSEE, elles datent de 2012, qui est estimé à peu près 140 000 personnes. C'est un chiffre qui avait été repris d'ailleurs aussi par l'Assemblée nationale sur la même année, en 2012, où on tablait à peu près sur 150 000 personnes.
C'est un chiffre national,
tout à fait. Après, la Fédération des acteurs de la solidarité, elle, se prononce plutôt sur un chiffre entre 150 000 et 240 000 personnes. Donc on voit que voilà, c'est très compliqué en fait, hein, de recenser le nombre de personnes qui aujourd'hui est en errance ou sans domicile fixe. Voilà.
Les personnes dont on parle sont les hommes, les femmes, les enfants?
Alors, c'est principalement, alors toujours pour l'instant, sur le national, on va dire, c'est principalement une population masculine. Ça représente à peu près 65% des personnes SDF aujourd'hui. Après, sur Tours, par rapport à nous, les chiffres de la Maraude, on est à peu près sur le même constat, c'est-à-dire que nous, on va rencontrer à peu près 70% d'hommes pour 30% de femmes.
Il y a des enfants ou pas du tout ?
Il y a des enfants, il y a des parents isolés avec des enfants, il y a des familles avec des enfants. C'est vrai que nous, alors sur la Maraude, on rencontre moins les familles. C'est pas forcément la population qui vient à notre rencontre. Nous, on va plutôt rencontrer les personnes isolées et les couples. Voilà.
J'ai vu aussi un article suite à la nuit de la solidarité qui a eu lieu sur Paris. Hein, c'était des bénévoles qui sont allés faire un recensement, une chose inédite, hein, sur Paris. Fait. Et sur le compte-rendu, il était noté que beaucoup de ces personnes sont arrivées à la rue de façon très rapide, principalement des jeunes, c'est ça ?
Oui.
Des personnes qui n'ont jamais eu de logement ou des personnes qui ont perdu leur logement ?
Alors, ça dépend. Alors, au niveau à peu près des personnes qu'on rencontre, c'est vrai que les tranches d'âge, on va dire, des personnes qu'on rencontre le plus, ça va être les jeunes entre 18 et 24 ans ou les adultes entre 30 et 49 ans. Voilà, c'est vraiment la typologie des personnes qu'on rencontre. Là, je parle principalement sur l'Indre-et-Loire. Hein. Voilà.
C'est les jeunes de 18-24 ans, c'est des jeunes qui n'ont jamais eu de logement ou qui sortent de foyer, enfin.
Il y a plusieurs profils, hein. C'est des jeunes qui peuvent avoir effectivement déjà un parcours institutionnel avec une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, par exemple. Ça peut être des jeunes qui vont se retrouver en rupture familiale. Voilà, c'est difficile en fait de faire une généralité, mais on retrouve principalement ces deux raisons-là, pour les jeunes surtout. Hein.
Et quand on passe une journée dans la rue, donc, ça se passe comment ? Est-ce qu'il y a, voilà, qu'est-ce qu'on fait le matin ? On va où ?
Alors, pour parler des lieux d'accueil sur Tours, peut-être, parce que une journée type, moi je le vis pas, ce serait difficile de vous expliquer exactement ce que les personnes font. Après, on peut parler effectivement des lieux d'accueil. Enfin, je pense que les collègues de la BARC peuvent aussi en discuter avec nous. sur Tours, en tout cas, le matin, il y a la halte du matin qui est gérée par l'association Émergence.
Et qui se trouve où, là ?
Qui se trouve rue Édouard Vaillant. Voilà.
C'est pour le petit déjeuner, c'est ça ?
Voilà, c'est l'accueil, café, bagagerie, douche, à peu près laverie. Voilà, je dirais que c'est ça principalement. Au niveau des accueils pour les personnes, il y a différentes choses. C'est-à-dire qu'il y a aussi donc, le Secours catholique qui accueille exclusivement les femmes sur un accueil qui s'appelle Intermède. Donc les femmes seules ou les femmes avec enfants. Ça se trouve dans leurs locaux rue de la Fuie. Émergence gère aussi la halte de jour. Où les personnes peuvent déjeuner le midi et rester un temps l'après-midi voilà, pour se reposer. Et Émergence gère aussi l'accueil famille. Donc c'est aussi un accueil de jour pour les familles. Voilà.
Et tout ça, ce sont des associations ?
Tout ça, ce sont des associations, voilà. Donc je ne parle pas de la BARC parce que les collègues vont le faire, je pense très bien. Bien. Voilà.
Justement, Flora, si vous voulez nous dire qu'est-ce que c'est la BARC, alors ?
La BARC, c'est un café, tout simplement. C'est un café qui est géré par une association, BARC to the Future, et qui permet, en fait, c'est un lieu d'accueil. Effectivement, c'est un lieu d'accueil de jour, mais le format café fait que ça en fait un lieu d'accueil inconditionnel, où on peut venir passer un moment agréable, sympa, autour de jeux, d'être accueilli anonymement aussi, c'est important. Voilà, on est ouvert toute la journée, voilà, le week-end également.
Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire à la BARC ? On vient, on boit un café, on mange, est-ce que c'est payant ?
Alors, l'entrée de la BARC, c'est un café, donc l'entrée n'est pas payante, il n'y a aucune obligation de consommation. On peut, c'est un café, donc on peut boire des cafés ou d'autres consommations sans alcool, bien sûr, à prix réduit. On peut jouer, on peut discuter, soit avec les bénévoles, les salariés et les autres personnes accueillies au sein du lieu. On peut, voilà, il y a plein de jeux de société. On propose des activités plusieurs fois par semaine, hein, des activités hebdomadaires qui sont. On a un atelier couture pour venir faire réparer ses affaires. Une fois par semaine, on a un atelier jardin où on va jardiner. On a un jardin partagé avec avec Entraide et Solidarité, à La Riche. On a également un atelier sport et un atelier basket qui est en train de se remettre en place. Voilà, ça c'est pour les activités extérieures, mais pour les activités intérieures, on peut proposer tout un tas de choses. Hormis le café et les jeux, on a un accès Wi-Fi gratuit. On a un poste, un PC ouvert avec accès Internet également. On a un espace de coin vêture où on peut distribuer des vêtements, enfin on peut se servir en vêtements. Voilà, on a également un frigo partagé qui avait été mis en place à l'époque par la Disco Soupe, qu'on a récupéré, et qui est un frigo où tout le monde peut venir mettre quelque chose et tout le monde peut venir prendre. Voilà. Actuellement, fortement nourri, notre frigo, par la table de Jeanne-Marie, qui vient nous le remplir quasiment deux fois ou trois fois par semaine.
Voilà. Dans ce que vous dites, là, il y a quelque chose qui me fait rebondir un petit peu. C'est on fait beaucoup de jeux de société. En quoi est-ce que c'est si important, les jeux, les sorties, les activités?
Alors, en fait, c'est important parce que c'est important pour tout le monde. Alors, bah, c'est pas parce qu'on est à la rue que c'est pas important, en fait, de retrouver des activités, bah, de la vie courante et des activités agréables, surtout. L'important, c'est que ça soit agréable et de permettre de refaire du lien social, de faire ou de refaire du lien social avec les autres.
Le frigo partagé, les personnes se servent, comment ça fonctionne ?
Alors, oui, c'est un accès en libre... Enfin, c'est en libre accès. Parfois, on est un peu obligé de réguler un peu les choses pour qu'il y en ait pour tout le monde, pour remettre les valeurs de partage dans ce frigo. Mais oui, tout le monde peut servir. Et globalement, c'est pas parce que on est à la rue ou en grande difficulté qu'on peut pas venir se servir dans ce frigo. On peut surtout venir y mettre des choses.
Tout le monde.
Tout le monde.
À tout moment.
Il y a des petites règles d'hygiène, tout ça, qu'on explique quand les gens passent, mais c'est tout à fait possible, oui. Tout le temps.
Est-ce que vous proposez un accompagnement social aux personnes qui viennent, qui en ont besoin ou qui en font la demande ?
Alors, oui, tout à fait. Le principe, c'est un accompagnement social informel par rapport à d'autres institutions. On laisse les gens venir et discuter de leurs problématiques pour finir par proposer quelque chose derrière, et c'est toujours s'ils le demandent. S'ils le demandent pas, on peut toujours proposer, hein, mais si c'est à leur demande, et on se donne rendez-vous pour faire des papiers ou quelque chose comme ça, et que la personne vient pas, bah c'est pas grave, on fera ça une autre fois. Voilà, il y a pas d'obligation. Et l'accompagnement, ça se fait... alors, c'est très vaste comme accompagnement. Ça peut être écrivain public, déjà. C'est-à-dire le fait d'écrire des récits, d'écrire des choses, de remplir des papiers, tout simplement, sans forcément aider les gens, mais d'écrire. Ça peut être de la réorientation vers les lieux d'accueil, les institutions locales, les...
CHRS.
Le CHRS, on a un téléphone aussi.
CHRS, c'est le centre d'hébergement.
Voilà. Et on a aussi un téléphone fixe pour appeler le 115. Voilà, tous les jours.
D'accord. Donc on peut avoir rendez-vous avec quelqu'un qui vient, qui va m'aider à remplir mes papiers administratifs, c'est ça ?
Tout à fait.
Pour retrouver ma carte d'identité si je l'ai plus.
Alors non. Alors non, ça c'est... le principe c'est... si, ça peut être aider à refaire une demande de carte d'identité, effectivement. Ça peut être aider à faire une demande de régularisation, aider à remplir une déclaration d'impôt, aider à pas mal de choses finalement.
Et qui est-ce qui va venir aider ? C'est une assistante sociale ou c'est des bénévoles qui viennent ?
Alors, non, on a au sein, à la barque, on a deux salariés qui sont des travailleurs sociaux et qui sont formés et qui aident pour, en fait. Et les bénévoles sont amenés à rediriger vers les salariés les personnes qui le demandent.
Et les bénévoles de la barque, c'est quoi leur mission ?
Leur mission, c'est l'accueil. Leur mission, c'est l'accueil principalement, et le lien social et la resocialisation.
Ok. Une pause musicale avec Alain Bachon, Volute.
Volute part en fumée, volute fond des nuées de scrupules. Volute part en fumée, vers des flûtes enchantées et des cruelles espérances, me lance des dagues et des lances. En toute innocence, volute part en fumée, sous les yeux embués d'étranges libellules. Pour une grimace et un rictus de plus. Je fais des heures sous tout, je m'en donne de la peine, je cogite, je m'agite, je rejoue la scène. Je cloue des clous sur des nuages, à marteau au fond du garage. Je cloue des clous sur des nuages, sans échafaudage. Des lunes surdouées, de courbes souveraines, pleines, pleines. Volutes partent en fumée, sous des soleils qui s'ignorent, dors d'armée, des réponses allongées. Mais que dire, mais que faire, mais comment ça tient l'air? Deux hémisphères, par quel mystère. Je cloue des clous sur les nuages, à marteau au fond du garage. Je cloue des clous sur les nuages, sans échafaudage.
Nous sommes de retour donc pour l'émission Entraide et Solidarité. Le sujet vivre dans la rue, et nous sommes en conversation avec Florée et Amandine de la Barque. Une première chose, Amandine, tout à l'heure, Flora nous a dit qu'à la Barque, on pouvait avoir du Wi-Fi gratuit. Et donc, moi, je me pose cette question de savoir, voilà, les personnes qui sont dehors et qui n'ont pas de logement et qui ne savent pas quoi où dormir ce soir, ont un téléphone portable?
Oui, bah, une grosse proportion des personnes à la rue ont un portable. Effectivement, on en parlait pendant la pause avec Laure, c'est aussi une manière déjà de rester en contact avec sa famille, avec ses amis, mais aussi de rester en contact avec toutes les institutions, appeler le 115, faire son actualisation Pôle emploi. Donc avoir un portable, il y a autant de personnes à la rue qu'un portable que une population qu'un logement, en fait.
Parce que pour eux, c'est aussi important
oui.
que pour nous.
On est dans le lien social, c'est ça, avec le
oui.
portable.
Oui, 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 aussi, oui.
À la barque, vous avez des bénévoles?
Oui.
Vous en avez combien ce jour?
7
à peu près, 7 bénévoles qui tournent sur la semaine en fonction de leur emploi du temps personnel, à peu près.
Il y a une question qu'on ne vous a pas posée, vous êtes situé où?
Alors, on est situé au 118 rue Colbert à Tours. Et on est ouvert du mercredi au dimanche. Du mercredi au vendredi, on est ouvert de 10h à 18h et le week-end de 9h à 18h. Et pour accéder à la barque, il y a juste à venir ouvrir la porte, boire un café avec nous si les personnes veulent venir faire connaissance ou ont besoin de quelque chose de particulier. Il ne faut pas hésiter à venir, ils seront toujours accueillis à la barque.
Tout le monde est bienvenu à la barque.
C'est ça.
Et vous pouvez recevoir combien de personnes? À l'inverse, je me pose la question. Je me dis, mais est-ce qu'ils peuvent accueillir toutes les personnes qui le demandent ou qui solliciteraient ou...
Bah, malheureusement, on a un très petit local. On a compté à peu près dans la période hivernale, on accueille environ 80 personnes sur la journée. Après, on peut accueillir environ 50 personnes en même temps sur le lieu.
Ah oui, c'est quand même.
Mais pas les personnes.
À 50, à 50, on se tient chaud.
Vous êtes bien serré.
Une personne, vous dites 80, 50, c'est vrai que connaissant les lieux, ça paraît un peu serré. Une personne, en moyenne, s'il y a des moyennes, elle reste combien de temps? Il y en a qui restent toute la journée, il y en a d'autres qui sont juste de passage.
Oui, c'est ça. Il y a des personnes qui sont là de 9h à 18h, dès l'ouverture, même un peu avant, qui sont devant la porte avant que ça ouvre. Et il y a juste des personnes qui viennent 5 minutes juste nous faire coucou et repartir.
D'accord.
Parfois c'est ça, ou juste venir, appeler le 115, repartir, ou prendre un café.
Merci. Je regarde Laure et je pense à une question aussi... qu'on n'a pas abordé, mais qui est importante, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à ne plus avoir de toit? Comment est-ce qu'on peut arriver à être exclu de notre système? Quelle histoire peut conduire à ça?
Alors, en fait, pour faire assez simple, sinon on pourrait en débattre pendant des heures, on va dire que les facteurs, on va essayer de parler un petit peu des facteurs d'isolement et d'exclusion. Donc en fait, souvent les personnes SDF, elles ont accumulé pas mal de ruptures relationnelles. Donc c'est des ruptures qui peuvent se jouer, on va dire, dès l'enfance, justement. Sur des personnes qui ont subi de la violence, des personnes qui enfants ont eu un parcours institutionnel, des choses comme ça. Et à l'âge adulte, ça peut être des ruptures relationnelles qui concernent, je sais pas, la vie affective, l'activité professionnelle. Ça peut être aussi les conséquences d'une pathologie mentale. Voilà. En fait, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas un traumatisme, mais c'est plutôt une succession de traumatismes, par exemple physiques et psychiques, qui vont amener quelqu'un à vivre dans la rue. Et à un moment donné, il va y avoir un événement plus ou moins grave, un divorce, une expulsion, un conflit avec des proches, une perte de travail, et ça va être l'élément déclencheur. Voilà.
Oui, je ne sais pas si j'étais claire. Déjà peut-être un peu fragile. Et la goutte d'eau qui fait déborder le vase, on dit c'est ça, non?
On peut résumer ça comme ça. Ouais. Voilà.
Vivre dans la rue et se soigner, c'est possible? Comment ça se passe?
Ça l'est, c'est compliqué.
Ouais.
après, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez savoir exactement?
Je pense que quand on est sans toit, une journée c'est long et on a d'autres préoccupations
tout
que
à fait.
Se soigner. Et
C'est vrai que par rapport à certaines, on va dire, pathologies chroniques, je sais pas, je pense au diabète, à l'hypertension, enfin des choses comme ça, c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est des pathologies des fois qui demandent à avoir un régime alimentaire un peu strict, ou voilà, donc ça peut être compliqué. Après, l'accès aux soins, oui, enfin là, c'est un vaste débat, je ne sais pas si on va développer ça.
On voit qu'il y a, vu le profil que vous venez de présenter, il y a plein de choses à régler avant, peut-être, ce n'est pas la priorité de se soigner.
Ça peut l'être, ça peut faire partie de la réinsertion d'une personne, c'est-à-dire que la réinsertion aujourd'hui, ce n'est pas que la réinsertion professionnelle, et dans la réinsertion sociale, la santé en fait largement partie, en fait. Mm-hmm. Ah.
Je m'adresse à Laurence, qui est bénévole et qui participe à la maraude depuis 3 ans maintenant. Déjà, qu'est-ce que c'est la maraude ?
La maraude, en ce qui concerne le soir, c'est surtout apporter une alimentation aux personnes qui ne peuvent pas manger tout au long de la journée. Puisqu'on vient à la gare avec un camion. Et là, on distribue donc de la soupe, des sandwichs, principalement.
Et puis, c'est aussi aller à la rencontre des personnes, non ?
Là, en fait, la maraude du soir, c'est plutôt eux qui viennent à nous. Voilà, ils savent qu'il y a le camion, à quel endroit il est situé. Et c'est plutôt eux qui se déplacent vers nous.
Il est où, le camion ?
Il est rue...
Les Places des Aumônes.
Et il est le mardi soir, le mercredi ?
Oui, et le vendredi.
Et le vendredi.
Voilà, d'accord. De 18h à 20h, 20h30.
D'accord. Et là, on peut vous rencontrer et avoir quelque chose à manger.
Voilà, tout à fait. Du chaud, du froid.
En fait, juste pour compléter, par rapport à la maraude, c'est vrai qu'on est un peu sur 2 temps d'intervention à l'extérieur. On a des maraudes de journée qui se font aussi les lundis, mercredis, vendredis. En fait, c'est l'après-midi entre 15h et 17h30. Là, on est à pied, on n'a aucune distribution. On est vraiment sur de la maraude sociale, aller à la rencontre des personnes. Et on a un temps, comme vous expliquez Laurence, le soir où on est posé avec le camion Place des Aumônes et où en fait la distribution alimentaire nous sert aussi de porte d'entrée. Pour entrer en contact avec les personnes qui sont en errance ou sans domicile.
Ouais, je me dis que si, tant qu'on a faim, tant qu'on a envie de manger, on ne pense pas forcément à autre chose, en fait. C'est ça ? Ouais.
Oui, puis quand ils viennent, justement, c'est là, nous, on leur donne ce qu'ils ont besoin. La nécessité, tout de suite, c'est de manger. Et puis après, s'ils ont besoin de parler, la discussion se fait après.
Sur les missions de SAMU Social, il y a la Croix-Rouge aussi, qui complète en fait. C'est-à-dire qu'eux font leur maraude le mardi, le jeudi et le dimanche, plus le samedi pendant la période hivernale.
Maraude sociale, c'est on va à la rencontre des personnes, on discute. Ouais. Comment ça se passe là ?
Bien, très bien, vraiment, je vous rassure, ça se passe très bien.
Non, mais pour quelqu'un qui n'imagine pas, qui...
Le but du jeu, c'est vraiment de rentrer en contact avec les personnes, c'est-à-dire qu'on se présente simplement. En fait, souvent, c'est les personnes qui font la manche en journée. Voilà. On va voir les personnes, on dit bonjour, on se présente. De quelle association on fait partie, quel est notre rôle, et puis on commence à échanger, voilà, tout simplement.
Et après, c'est pour aller sur d'autres dispositifs ou surtout pour un lien ?
Alors, c'est pour un lien. Tout dépend de l'échange. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qu'on va rencontrer pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois avant que la personne exprime une demande particulière. Il y a des personnes qui vont formuler des demandes beaucoup plus rapidement. Et puis,
Vous les connaissez, les personnes, finalement, vous allez voir au fur et à mesure.
Oui, on en rencontre toujours des nouvelles.
De même que Flora Amandine, je me dis, à la barque, il doit y avoir aussi les habitués. Comme,
Tout à fait, oui. Il y a des gens qui reviennent tous les jours, toute l'année, ouais. Depuis très longtemps. Et puis des gens qu'on voit une semaine et puis qu'on ne revoit plus après parce qu'ils sont,
voilà,
ils sont partis de tour, probablement, ou pas. Ou c'est que le dispositif ne leur convient pas aussi, c'est possible.
Peut-être des personnes qu'on ne voit jamais, qui ne sollicitent rien les personnes.
Oui, mais en fait, nous, les gens qu'on revoit, c'est les gens qui viennent au camion le soir. Justement, le but du jeu, c'est qu'en journée, on voit les gens qui sollicitent personne. Ouais. Et c'est bien d'aller à leur rencontre à ce moment-là, quoi.
Et
Et vous faites toujours le même parcours ou non.
Non, c'est très différent. Ça peut être... on peut passer dans les petites rues de Tours où on ne peut pas justement aller avec le camion. Donc on va faire les rues piétonnes où on est à pied. On peut faire les bords de Loire. On peut aussi être amené... sur des signalements du 115 à se déplacer voir une personne, sur des signalements des partenaires à aller rencontrer une personne, voilà.
D'accord. Merci, on interrompt une seconde pour une nouvelle pause musicale avec Mano Solo, Soif de la vie.
Restait figé à écouter jusqu'au soir. Oh mais elle ne disait rien. Oh mais merci ou à demain. De sa bouche grande comme un ravin, on se jetterait pour y mourir une bouche. Vous prétendez certains, on y avait même vu un sourire. Mais de cet homme poussant la porte et qui commandait d'une voix forte, j'ai soif de la vie. Comme on apporte. Partait dans de grands éclats de rire qui pour la serveuse étaient comme des navires transportant les rêves qu'elle n'avait jamais eus vers un soleil qu'elle n'aurait jamais cru. Et il est resté là jusqu'au soir à raconter de drôles d'histoires, des pays inconnus et nouveaux. Juste à trois stations de métro, un grand boulevard, bazar de l'espoir où les amours se trament et se désirent sans qu'il n'y ait même plus rien à dire. Et pour sûr qu'un jour on y défilera, hurlait-il en cédant des bras, et il recommandait d'une voix forte, j'ai soif de la vie. En oublier de laver ses verres, abandonner le bar à ses clients et avec lui s'enfuir éperdument. Mais quand c'est à elle qu'il a parlé, c'était pour dire ma petite dame, combien que ça fait. Alors elle a dit c'est pour la maison, mais dans le bistrot ça fait sensation. Alors il est parti comme il était venu, arraché par la rue. Et depuis, elle ne pense qu'à lui, sous le regard des autres. Et depuis, elle ne pense qu'à lui, et dans son cœur, le manque se vautre. Et chaque jour, elle entend tout bas ce petit refrain qui cogne à sa porte. J'ai soif de la vie comme on apporte. Que dans un grand tourbillon, elle me transporte. Que dans un grand tourbillon, elle me transporte. Que dans un...
L'émission Entraide et Solidarité, sujet vivre dans la rue. On pensait revenir aussi quand même sur pourquoi ce sujet maintenant. Parce que nous sommes début juin. Et parce que on parle beaucoup des personnes qui sont à la rue et on a beaucoup, enfin plus d'aide en tout cas l'hiver. L'été, on en parle beaucoup moins parce que on part en vacances, hein. On part même en camping et on se dit finalement est-ce que voilà. En tout cas, il existe un vrai besoin l'été. Il existe un besoin de bénévoles sur les associations. Donc si toutefois vous avez envie, et là c'est un peu appel, hein, si vous avez envie de participer et d'aider, c'est le moment de vous manifester. On redonnera des contacts à la fin de l'émission si vous souhaitez. Pour reprendre sur le bénévolat, donc Laurence, on a la chance de vous avoir avec nous, merci.
Vous en prie.
Est-ce que vous pouvez nous dire quel était votre point de vue en arrivant, qu'est-ce qui vous a motivé pour devenir bénévole?
Alors en fait, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Je viens de la région parisienne et avant j'avais des horaires de bureau, donc voilà, j'ai jamais pris le temps. Arrivé ici, j'ai changé de profession. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire un stage dans un CHRS d'entraide et solidarité d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Et du coup là, ça, j'ai été très touchée par le public. Et c'est vrai que à la fin du stage, pour moi, c'était une évidence de rester à l'association et du coup de faire la maraude.
Est-ce que vous pouvez nous raconter votre première soirée de maraude?
Alors la première soirée, en fait, c'était un 24 décembre. Oh. Donc pour moi, c'était tout un symbole. Et je me suis fait une réflexion que je pense beaucoup de personnes se font, parce que j'avais beaucoup d'a priori. Les a priori, d'ailleurs, à plusieurs reprises, j'ai demandé est-ce que la personne a besoin, parce que c'est des personnes, en fait, qui sont, enfin, je sais pas comment expliquer, mais propres sur eux. Enfin, voilà, on a des a priori comme quoi les gens à la rue, ils ont pas de, ils se laissent un peu aller. Et du coup, les personnes qui venaient au camion au début, c'était des personnes comme vous et moi. Et du coup, je me disais, mais ils sont vraiment à la rue. Donc déjà, c'est quelque chose, c'était pas bien.
Ce que vous dites là, c'est que demain, on peut rencontrer quelqu'un qui vit dans la rue et on ne le voit pas. Enfin,
tout à fait, voilà, qui passe inaperçu. Après, c'est vrai qu'on se fait beaucoup d'images par rapport aussi aux personnes de la rue, surtout sur Paris, ce qu'on pouvait appeler à l'époque les clodos, quoi, hein, vulgairement, voilà. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cette image-là.
C'est quoi cette image-là?
De la personne qui est très fort alcoolisée et qui se laisse pas du tout, enfin qui se laisse complètement aller. Et du coup voilà.
Et donc ces a priori, ils sont partis aujourd'hui?
Ils sont partis, oui, tout à fait.
Et alors on revient sur cette première distribution le 24 décembre.
Alors j'ai été aussi étonnée de voir l'âge, il y avait beaucoup de jeunes. Et ça, c'est vrai que c'est choquant, quand même, parce qu'on dit il y a des jeunes de 18 ans, mais il y avait aussi, il y a beaucoup d'ados. Il y a beaucoup d'ados seuls, ouais.
Et aujourd'hui, vous continuez à faire la maraude. Est-ce qu'il y a toujours quelque chose que vous n'arrivez pas à imaginer ou que vous n'arrivez pas imaginer? Enfin, qu'est-ce que chaque soir, en repartant, il y a toujours quelque chose qui vous reste dans la tête ou
Oui, ce que je garde, c'est les gens qui viennent, ils sont dignes, ils ont la bonne humeur, et donc ils nous mettent la bonne humeur. Et c'est vrai qu'on passe des soirées superbes, quoi. Grâce à eux, en fait. Ils sont dans le besoin, dans la demande, mais ils arrivent avec une patate. C'est agréable.
C'est fou, c'est pas du tout. Et si vous rencontrez demain quelqu'un qui se dit j'ai envie mais j'ose pas et qui n'a pas encore franchi le pas de prendre contact pour devenir bénévole, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire?
Déjà je lui dis viens, on passe des super soirées. Autant les bénévoles que les salariés, ils sont bienveillants, donc c'est vrai que quand on a besoin de venir aussi. Moi je sais que quand je peux pas y aller, j'ai un manque.
Ça vous apporte
énormément.
L'été, vous avez autant de personnes qui viennent au camion?
Oui,
on a plus. En fait, on a plus de monde l'été au camion que l'hiver. Ouais.
Et alors, les conséquences de l'été pour les personnes qui sont dehors, c'est quoi exactement?
Les conséquences de l'été, c'est en fait les mêmes que les conséquences de l'hiver. Sauf qu'au lieu de souffrir d'hypothermie, ils vont souffrir d'hyperthermie. Voilà. Mais je dirais, c'est vrai qu'on parle souvent des personnes SDF pendant les périodes de grand froid. Mais on recense, par exemple, plus de décès de personnes SDF l'été que l'hiver. Parce que ça va être souvent la fête.
comment dire, la fatigue de la situation et le manque de soins qui vont être vraiment les facteurs risques et pas seulement le froid en fait. Donc l'été, les personnes elles vont être tout autant fragilisées, les pathologies peuvent aussi s'aggraver, voilà, ils vont souffrir d'hyperthermie, de déshydratation, de choc entre la différence de température entre le jour et la nuit, enfin voilà.
Dans certaines villes, il y a des distributions d'eau, de bouteilles d'eau. À Tours, ça existe aussi ou
Alors, ça peut exister. C'est un petit peu compliqué parce qu'il n'y a rien de... C'est jamais pareil chaque année. C'est-à-dire que vraiment, quand il y a un plan canicule, on peut la maraude et nous-mêmes, on peut renforcer nos maraudes de jour pour faire de la distribution d'eau. Mais voilà, ce n'est pas quelque chose qui est calé sur le calendrier d'une année sur l'autre, en fait.
D'accord.
Voilà.
À la barque, on a de l'eau à disposition toute la journée et toute l'année.
À la barque, est-ce que vous avez besoin d'aide en ce moment, de bénévoles? Est-ce que ce qu'on parle au sujet de la maraude et de l'aide qu'on peut avoir, dont on peut avoir besoin à l'été, est-ce que c'est juste pour vous aussi?
C'est tout à fait vrai. Aujourd'hui, on a 7 bénévoles à peu près, mais en fait, c'est des bénévoles qui, pendant un moment, parce qu'ils ont des périodes de disponibilité, peuvent être là, et puis... parce qu'ils retrouvent un boulot, parce qu'ils font autre chose, etc., qu'ils ne peuvent plus être là. Donc oui, on a toujours besoin de bénévoles. Et puis, il suffit, de, encore une fois, de passer la porte et de venir nous voir. On est sympa.
Et alors, si demain, je rencontre quelqu'un qui me semble vraiment dans le besoin dans la rue, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider?
Aller voir la personne, lui dire bonjour, lui demander si elle a besoin d'aide pour quelque chose. Parce que, alors, téléphoner au 115 par rapport à l'hébergement.
Alors, le 115, c'est quoi le 115?
C'est le numéro d'urgence pour les personnes sans-abri.
C'est l'urgence sociale.
Voilà. Proposer alors de l'écoute, un hébergement d'urgence et de réorienter aussi les personnes sur des rendez-vous avec des travailleurs sociaux.
Donc ça, c'est le numéro de téléphone à connaître, c'est le numéro gratuit.
C'est gratuit, oui. Voilà, à Tours, il faut téléphoner, enfin, le 115, on peut réussir à les joindre à partir de 15h, tous les jours, du lundi au dimanche.
À partir de 15h,
oui.
C'est gratuit jusqu'à 22h, c'est ça?
Jusqu'à 20... Bah, non, toute la nuit.
Toute la nuit, on peut appeler le 115. Et toute, jusque tard la nuit, on est susceptible peut-être d'avoir une solution d'hébergement.
Je peux pas vous répondre, en fait. Je peux pas vous répondre, je suis désolée.
C'est en fonction des places disponibles.
C'est en fonction du nombre d'appels et des places disponibles.
Et des places disponibles. Donc, et y a le 18, c'est les pompiers.
Ça n'a rien à voir.
Voilà, si on
le 15 n'a rien à voir non plus. Voilà. C'est le SAMU.
Si on rencontre une personne dans la rue qui va pas bien physiquement, qu'on sent.
Bah, en fait, vous faites comme vous feriez avec n'importe qui. C'est-à-dire que si vous trouvez quelqu'un qui fait un malaise, bah, vous appelez les pompiers, en fait. Hein, voilà. Si c'est par contre une personne avec qui vous arrivez à échanger et que la personne vous dit bah, qu'elle dort dehors, qu'elle souhaiterait bien un hébergement, vous pouvez appeler le 115 avec elle. L'important, en fait, moi, je dirais, c'est d'aller voir les gens et d'échanger avec eux. C'est important, en fait. Voilà. Oui, et puis évaluer, en fait, voilà, parce que des fois, appeler le 115 pour signaler quelqu'un, par exemple, qui dort en bas de son immeuble, c'est très bien, mais le mieux, c'est de descendre voir la personne, de discuter avec elle, et après d'appeler le 115 si la personne en a besoin, voilà.
Laure, vous êtes professionnelle,
oui.
C'est pas mon domaine, je suis tout à fait attentive, mais c'est vrai que des fois, on ne sait pas quoi dire, on va discuter, comment allez-vous, mais... Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que
bien
pour
sûr.
Une professionnelle, c'était plus facile. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Comment on peut aborder la personne?
J'entends bien. Après, le but du jeu, c'est pas de réaliser une évaluation sociale. Hein. C'est plus si on a l'impression que la personne est en danger, comme vous disiez tout à l'heure. Donc, c'est plus aller s'assurer que la personne va bien, par exemple. Voilà, bonjour monsieur, bonjour madame. un « vous allez bien je vous donne mon prénom, vous vous appelez comment ?» Et puis voilà, il y a des personnes qui vont nous diront « non merci, tout va bien », et puis des personnes qui échangeront deux, trois mots. Et puis je crois que voilà, faut rester dans quelque chose de simple, dans un rapport humain en fait.
En fait, c'est oser.
C'est ça.
Oser.
Mmh. Voilà.
On s'arrête encore une petite seconde avec une dernière pause musicale. On écoute Daran et les chaises, Dormir dehors. D'accueil qui existe en Indre-et-Loire, de la Maraude, de la Barque, de Halte de Jour, un petit peu d'hébergement avec le 115. Moi j'ai remarqué en discutant avec les uns et les autres en amont de l'émission en tout cas que beaucoup se connaissent et du coup je me dis qu'il y a vraiment un réseau qui existe et qu'il y a des structures qui sont différentes les unes des autres mais qui ont des actions qui sont complémentaires les unes aux autres. Est-ce que quand même est-ce qu'il y a quand même des structures qui aident sur le long terme les personnes. Est-ce que on n'osait pas parler de processus de réinsertion, ou en tout cas de démarche pour à amorcer, pour commencer à sortir de cet état d'exclusion?
Alors, on peut être accompagné par des structures et être toujours en errance. C'est un petit peu compliqué, en fait, parce que je pense que l'exclusion, c'est pas que être sans logement, en fait. Ça peut passer par plein d'autres choses. Toutes les structures, en fait, accompagnent à long terme. C'est-à-dire que on respecte aussi la temporalité des personnes, et que ce soit des structures de maraude ou que ce soit des structures avec un accueil physique, on accompagne les personnes, en fait, sur le long terme.
Oui, oui, oui. On voit quand même pas mal de gens. Alors, on a effectivement, en fait, on a toutes les populations, puisque on a aussi ceux qui ont, en fait, qui sont réinsérés et qui reviennent toujours, en fait, à la barque pour dire bonjour, parce que ça a été un lieu qui a été important pour eux. Mais sinon, oui, on voit des gens qui travaillent et qui sont à la rue. Oui, tout à fait. Mmh.
Est-ce qu'on a une augmentation du nombre de personnes à la rue depuis quelques années?
Les chiffres disent oui. J'ai pas.
Et vous, est-ce que sur le terrain, vous...
Sur le terrain, on remarque peut-être un peu plutôt des changements dans les types de populations qu'on va rencontrer.
C'est quoi ces changements?
On va rencontrer plus de jeunes, peut-être plus de personnes en situation de demande d'asile ou des choses comme ça. On va rencontrer un petit peu plus de familles. Voilà, c'est plutôt ces changements-là qu'on va remarquer. Sur la quantité, c'est difficile d'évaluer, nous, à notre niveau, en tout cas.
Plus de jeunes, à savoir, c'est que jusqu'à l'âge de 25 ans, on ne peut pas percevoir le RSA.
Non, on ne peut pas percevoir le RSA. Enfin, on peut, mais sous certaines conditions. Une jeune femme, par exemple, qui aurait moins de 25 ans, qui serait enceinte ou avec un enfant, pourrait percevoir le RSA. Mais la plupart des jeunes, non.
Mmh. Moi, je reviens sur les familles à la rue. C'est-à-dire que toute la famille ensemble.
Oui. Et dehors.
Et dehors.
Tout à fait.
Avec des enfants en bas âge.
Oui. Les enfants, ils sont souvent scolarisés, d'ailleurs.
D'accord.
Voilà.
Donc, l'enfant est scolarisé, va à l'école. Et le soir, on n'a pas de lieu pour faire cette.
Pas de lieu où on est hébergé par le 115, ça dépend. Oui, oui.
D'accord.
Oui, oui, tout à fait.
Laura a dit une chose que je trouve quand même positive. Minutes et demie environ, c'est qu'elle a parlé de personnes qui ont réussi à être réinsérées et qui reviennent. Ça veut dire qu'on peut sortir.
On peut, bien sûr qu'on peut, bien sûr. Après, ça demande effectivement, c'est quelque chose qui est long, qui est compliqué, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui s'en sortent très vite. Enfin, comme tous les profils existent et comme tout est possible, ça peut être très très court et très très rapide et très très simple, comme excessivement long, et ça fait des années, voire des dizaines d'années que ça dure, et un jour, bah, ça va mieux. Les choses sont tellement multifactorielles à l'arrivée dans la rue et à la sortie de la rue que c'est... Tout est trop imbriqué pour qu'on puisse vraiment définir un profil... spécifique et vraiment un processus de réinsertion.
Une aide qui est disponible pour les personnes, c'est des associations qui prêtent leur adresse.
Oui.
Je regarde Laure. Alors, est-ce que tu peux nous dire lesquelles et à quoi ça sert?
Donc, c'est pour la domiciliation administrative. Donc, ça permet en fait aux personnes qui sont en errance ou sans domicile d'avoir une adresse, voilà, pour recevoir leur courrier, effectuer toutes leurs démarches administratives. À Tours, alors il y a la Croix-Rouge, Entrée des Solidarités, le CCAS et la halte de jour d'émergence. Voilà.
Pourquoi je m'adresserais à l'une plus qu'à l'autre?
En fonction, chaque association reçoit un type de public. Voilà, c'est-à-dire que la Croix-Rouge va recevoir les personnes en demande d'asile ou les publics migrants ou les personnes en situation irrégulière. Le CCAS va recevoir les personnes qui ont un lien avec la ville de Tours depuis plus de 3 mois. Enfin voilà, ça va être en fonction de sa situation.
Donc ça va avec l'accompagnement social.
C'est ça, exactement.
Donc les personnes vont chercher toutes les semaines leur courrier.
Les personnes y vont quand elles veulent.
D'accord, il n'y a pas un jour précis.
Il n'y a pas un jour précis, c'est en fonction de la structure, voilà. Pour entraider solidarité, c'est aux heures d'ouverture de l'accueil. Donc la personne peut venir tous les jours, elle peut venir une fois par semaine, deux fois par semaine. Enfin, ça lui appartient en fonction des démarches qu'elle effectue et ce qu'elle peut attendre comme courrier, par exemple.
Document,
ouais. Oui.
Chacun son parcours personnalisé.
C'est ça. Tout à fait.
Une adresse à donner.
Laure, est-ce que c'est une idée reçue qu'il y a encore beaucoup de personnes qui refusent un logement pour une nuit ?
Un hébergement d'urgence ?
Oui.
Alors, beaucoup, je ne sais pas. Certaines personnes, effectivement, refusent parce que voilà, les personnes vont dire qu'elles vont manquer d'intimité dans les centres d'hébergement, qu'elles vont perdre une certaine liberté. Après, les arguments sont multiples. Hein. Voilà, il y a toutes les personnes qui ont des animaux. Mm-hmm. Il n'y a pas de place à Tours, en tout cas, dans les places du 115 pour les personnes qui ont des animaux. Bon, voilà, pour plein de raisons, certaines personnes vont refuser... les places en hébergement d'urgence.
C'est pas une majorité.
C'est pas une majorité. Là, je pourrais pas vous dire parce que j'ai pas les chiffres en fait. C'est très compliqué justement de recenser les gens qui continuent à faire appel au 115 et ceux qui le font plus en fait.
D'accord.
Ouais, c'est ça, voilà. C'est tout ce que je comprends, c'est qu'en fait les chiffres qu'on a sont les chiffres à partir du 115, donc on peut se rendre compte lorsque les personnes se manifestent. Mais les personnes qui n'ont pas la force ou qui sont découragées et ne prennent plus contact, finalement, il n'y a pas de.
Ben non.
On ne sait pas quoi. On ne sait pas qui elles sont, on ne sait pas où elles sont. Enfin,
tout à fait.
Ouais. À Paris, il y a des endroits où il y a des tentes, on voit qu'il y a des quartiers où on sait qu'il y a des personnes qui habitent là. Est-ce qu'à Tours, il y a ça aussi ?
Là, comme ça, je dirais pas trop. Après, nous, on sait les endroits où les personnes installent leurs tentes quand même. On connaît 2-3 squats un petit peu. Enfin, voilà. Mais parce qu'à force de travailler sur Tours, on va repérer quelques endroits comme ça. Mais je crois que c'est pas comparable avec...
Il n'y a pas de campement à voilà. proprement dit à Tours.
Voilà.
Ok. Flora avait une annonce à faire au sujet d'une soirée de soutien.
Oui, on refait. L'année dernière, ça avait été tellement bien, tellement sympa et ça avait tellement bien marché qu'on s'est dit qu'on refaisait la même chose cette année. Donc on fait une soirée de soutien le 23 juin qui se déroulera au Balkanique en soirée, heure de début des concerts. Allez, je vais dire 19h, mais j'en sais rien finalement. 19h30, on me dit dans l'oreillette. Voilà, ça sera une soirée musicalement principalement axée sur le hip-hop. J'ai pas la programmation sous les yeux, donc je vais devoir zapper ça. Mais il y aura en tout cas du miam et du boire de soutien et une tombola. Il faut savoir qu'on organise cette soirée de soutien aussi et surtout pour fêter notre premier anniversaire de réouverture de la barque et le premier anniversaire de notre association. Voilà.
En besoin, sinon, donc les besoins de bénévoles, est-ce qu'on redonne, peut-être on peut redonner les contacts des uns et des autres. Donc, devenir bénévole à l'entraide, c'est au 02 47 31 87 00. C'est aussi sur le site internet de l'association. entraide-et-solidarité.fr, à savoir que le besoin est important l'été,
oui.
Voire il est plus important l'été encore que l'hiver.
Et pour la barque, c'est juste de pousser la porte pour devenir bénévole.
Voilà. Et vous pouvez nous appeler au 02 47 66 06 89.
Et une page Facebook ?
Nous avons bien sûr une page Facebook. Actuellement, il en existe deux, puisqu'il y a celle de l'ancienne association, mais c'est la barque To the Future-Café Associatif.
Ok, sinon les besoins de dons pour les personnes qui sont à l'extérieur, ça pourrait être quoi ?
Alors nous, on a toujours besoin de vêtements, surtout en ce moment. On en a eu plein cet hiver, c'était super, mais là, on en a beaucoup moins. On a toujours besoin de gens pour remplir le frigo partagé et éventuellement des dons de produits d'hygiène.
En petite quantité, dans les échantillons, ce genre de choses, non ?
Oui, en petite quantité, oui.
Ok, donc on a prévu une prochaine mission qui aura lieu le 2 juillet, qui va traiter de l'hébergement d'urgence. Hein, donc on va creuser la question du 115 notamment, de l'orientation des personnes pour le soir, pour trouver une adresse où dormir, voilà, chaque jour. On vous remercie, on remercie de